Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Benjamin Boivin, candidat à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM. Il s'interroge sur les parallèles possibles entre l'après-pandémie et les folles années 20 qui avaient succédé à une Première Guerre mondiale et une épidémie de grippe espagnole extrêmement meurtrière. Mais tout d'abord, Jean-Claude Lebrecq, membre de l'équipe, nous parle de l'interview accordée par le prince Harry et son épouse Meghan Markle à Oprah Winfrey. Comment expliquer qu'un couple veuille fuir la publicité liée à la monarchie britannique pour en rechercher une autre, fondée cette fois sur l'étalement des sentiments? Doit-on voir dans cet épisode l'affrontement entre deux mondes, entre la monarchie et Netflix, ou encore entre le cœur et l'institution? Jean-Claude, bonjour.
Bonjour.
Ce sont des questions épineuses qu'on va traiter aujourd'hui. On va quand même commencer par la nouvelle. Mais c'est une nouvelle fascinante parce qu'elle met en jeu des tas d'autres, comment dirais-je, des tas d'autres tendances.
Oui, bien sûr. Et elle met en jeu, ben, vous savez, l'importance qu'a la monarchie dans la société anglaise.
Ah oui.
En Grande-Bretagne, nommément. Mm-hmm. En fait, au Royaume-Uni. Le couple princier, en fait, à travers cette entrevue, attaque d'une certaine manière de front l'institution qu'est la monarchie britannique et en mettant en cause, si vous voulez, les deux premiers des six successeurs potentiels de la reine Élisabeth II lorsqu'elle mourra et qu'on la remplacera. Oui. Le premier sur la liste étant son fils Charles, qui est entre autres le père de Harry, et le deuxième sur la liste, c'est le prince William, qui est le frère aîné de Harry. En fait, Meghan et Harry, si vous voulez, accusent de racisme un membre de la famille royale qui se serait interrogé sur la couleur de la peau de leur premier enfant. Ils prennent la peine de préciser qu'il s'agit ni de la reine, ni de son mari.
Jean-Claude,
évidemment, comme vous connaissez le Royaume-Uni et particulièrement la presse à sensation anglaise, donc c'est la presse à sensation s'est empressée de multiplier les spéculations sur l'auteur de la remarque dite inappropriée. En fait, on essaie de voir est-ce que c'est Charles, est-ce que c'est William, est-ce que c'est un autre des frères, un autre parent proche. En fait, on ne sait pas.
Mais Jean-Claude, justement, c'est en épargnant la reine et le prince consort, Philippe, qui était à l'hôpital au moment de l'entrevue, âgé de 99 ans quand même, ils disent c'est ni la reine ni son mari, donc évidemment que les feux se braquent sur les autres qui auraient un alibi, si j'ose dire. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le père de Meghan Markle, Thomas Markle, oui, qui est assez, ils sont en froid, hein, lui et la fille, il a parlé de cette remarque. Il dit c'est pas, il s'en est pas formalisé outre mesure. Il a dit c'est une remarque stupide, mais qu'on n'en fasse pas tout un foin. Je veux dire, c'est une histoire qu'on monte en épingle. Évidemment, c'est une remarque stupide, mais comme il y a des tas de remarques stupides que tout le monde dit et tous les jours.
Oui, mais comme on pourrait aussi dire comme ça, elle est métissée, voilà. Lui il est blanc. Quelqu'un pourrait simplement se dire je me demande est-ce qu'il va être coloré un peu, est-ce qu'il va être un peu plus foncé ou est-ce qu'il va être blanc, sans nécessairement être tombé dans le racisme. Évidemment, ce dont il est question ici, on parle de la monarchie, de la famille royale, etc. Ouais. Et donc d'une institution. Évidemment, à partir du moment où on met ça sur la place publique, ça devient un scandale certain. Si vous voulez, cette interview qui était animée donc et produite par Oprah Winfrey et qui a été vendue à CBS et diffusée le jour même où la reine Élisabeth II célébrait l'unité du Commonwealth. Il faut se rappeler que le Commonwealth, c'est un regroupement de pays qui étaient à l'origine des pays sous la gouverne de l'Empire britannique, à l'époque où il y avait un empire. Et donc, par après, ces pays se sont unis pour former le Commonwealth. Il faut garder à l'esprit que la remarque ne passe pas inaperçue parce que la majorité de ces pays membres du Commonwealth sont des pays africains et asiatiques. C'est la grande majorité.
Oui.
Donc, c'est au moment où la reine célèbre l'unité du Commonwealth autour de la couronne que Meghan et Markle racontent, bien sûr, en plus des accusés de racisme, racontent qu'elle a eu des pensées suicidaires lorsqu'elle vivait au château et qu'elle n'a reçu aucun soutien psychologique. Elle affirme même avoir vu des membres de l'institution royale pour demander de l'aide et évoquer la possibilité d'une prise en charge médicale. Et elle nous raconte, on m'a dit que je ne pouvais pas, que ce ne serait pas bon pour l'institution.
On peut le comprendre. Écoutez, imaginez que la reine dit « je suis en psychanalyse ». Oui. D'entrée de jeu, moi je regarde un billet de banque canadien, je dis « oh, celle-là, elle est en psychanalyse, c'est bizarre ».
Oui, bien sûr.
Ça fait des ordres.
Si, bien sûr, mais j'imagine que Mme Meghan Markle, qui avait à ce moment-là probablement 36-37 ans, il me semble que comme adulte, on peut décider de faire une démarche soi-même, privément, aller consulter. Évidemment, c'est sûr qu'à partir du moment où il y a le moindre indice qui sort, déjà, ça va se mettre à spéculer, puis on va trouver... On va spéculer, mais ceci étant dit... pardon. En tout cas, je demeure très étonné qu'elle nous dit en plus qu'elle ajoute à tout ça que le palais de Buckingham, il faut voir aussi dans tout ce propos-là, on parle parfois de l'institution, on parle à un certain moment de la famille royale, on parle de la monarchie, mais on dit également donc que le palais de Buckingham aurait refusé d'accorder à son enfant d'accorder une protection à son enfant et que des membres de l'institution estimaient que cet enfant ne devrait pas recevoir de titre de noblesse malgré que ce soit la tradition. Quand elle parle de l'institution, j'ai l'impression qu'on parle de toute l'organisation, mais pas nécessairement des membres de la famille royale.
Encore une fois, Jean-Claude, c'est toujours des accusations qui sont nébuleuses, ce qui fait que la terre entière commence à tricoter autour de ça et à inventer des histoires qui sans doute n'en sont pas.
Probablement.
C'est quand même, je ne sais pas si on peut dire vicieux, intelligent, enfin bref, d'abord le timing de l'entrevue est plutôt...
Très bien choisi. Hein?
C'est très bien choisi ou très mal choisi, là, selon qu'on est du pour ou contre.
Oui, c'est ça.
mais il y a aussi c'est des tas d'insinuations qui fait qu'elle dit bien des choses sans rien dire.
Mais de la même façon que Harry affirme qu'il regrettait que la famille royale n'ait pas pris position publiquement pour dénoncer ce qu'il considère, lui, comme une couverture aux accents racistes par une partie de la presse britannique. Oui. Et Meghan a elle-même dénoncé une vraie campagne de dénigrement de la part de l'institution royale et ne pas s'être sentie protégée par la famille royale, tout en prenant garde, bien sûr, de ne pas attaquer les membres de la couronne. Alors, c'est encore toujours nébuleux de qui on parle, de quoi on parle, on ne sait pas. Si vous voulez, donc, la monarchie, sachant que cette entrevue allait être diffusée, publiée, avait décidé de faire front face à la menace de cette interview choc, en offrant quelques heures avant cette diffusion l'image d'une famille unie lors des cérémonies annuelles du Commonwealth. Et donc, dans un discours préenregistré, la reine Élisabeth II a souligné l'importance du dévouement désintéressé et du sens du devoir dont ont fait preuve les soignants durant la pandémie. Oui. Ah, donc, certains pourront sûrement interpréter ça comme étant un signe qu'ils ne manqueront pas d'interpréter comme un signe qui est une critique adressée au couple princier. Mmh. Des membres, d'ailleurs, de la cour, on ne les nomme pas, mais des membres de la cour n'ont pas hésité à qualifier cette interview de cirque et dire qu'ils se préparaient à riposter par de nouvelles révélations sur le comportement du couple si la monarchie était attaquée.
Donc, il y avait une expression...
Oui,
allez-y. La reine d'Angleterre a dit une chose qui est très... Évidemment, chaque mot, chaque respiration, chaque battement de cils chez la reine d'Angleterre, dès qu'elle parle en public, est analysé. On fait des doctorats là-dessus. Enfin bref, elle avait dit « Certains souvenirs peuvent avoir été modifiés avec le temps. » C'est une façon de dire « Ma pauvre fille, t'es peut-être un petit peu dans le champ. »
Voilà. Et ce qu'il faut aussi se rappeler, parce que vous l'aviez évoqué au tout début, depuis leur installation aux États-Unis, le couple Harry et Meghan, il a créé sa propre fondation qui s'appelle Archewell, et il s'est notamment engagé à produire des programmes, donc des émissions, pour Netflix, moyennant la modique somme de 100 millions de dollars, selon plusieurs médias américains, ainsi que des podcasts pour Spotify.
Il faut payer la thérapie.
Mais probablement, il faut aussi ajouter à cela un partenariat avec la plateforme Apple TV+, en collaboration avec Oprah Winfrey. Le couple vaut de l'or et Oprah Winfrey aurait vendu cette interview entre 7 et 9 millions de dollars à CBS, tout en conservant les droits à l'international. Évidemment, c'est une source de revenus juteux. Autrement dit, l'offensive de Harry et Meghan divise profondément l'opinion, je parle toujours de l'opinion anglaise, entre une partie qui les considère comme des enfants gâtés, ingrats, torpillant leur famille, dénonçant l'intrusion des médias, tout en se prêtant à leur jeu pour 100 millions de dollars. Et une autre partie de la population qui, elle, les voit comme des victimes d'un clan étouffant, englué dans des mœurs révolues. Si vous voulez, donc, D'un côté, et là je cite un professeur à la retraite de l'Université McGill, M. Peter McNally, qui est un professeur d'histoire justement, lui, il qualifie tout ça de dire, d'un côté, ils sont partis parce qu'ils ont dit qu'ils n'aiment pas la publicité, mais voilà qu'ils adoptent un mode de vie basé sur la publicité.
On est en pleine contradiction là.
Ben voilà, donc il me semble, dit ce professeur, dit toujours, il me semble que cette entrevue avec Oprah Winfrey fait partie du plan pour augmenter leur notoriété publique, pour faire connaître leur marque de commerce. Hein? D'ailleurs, Meghan Markle, dans l'entrevue, elle a ajouté que nous ne faisons pas que survivre, nous prospérons. Hein? Mm-hmm. Donc, pour paraphraser Jacques Brel, j'aurais envie de vous dire, on peut bien vouloir voler de ses propres ailes chez ces gens-là, mais on demeure toujours le fils ou la fille de quelqu'un.
Mais il y a aussi autre chose, Jean-Claude, oui, Jean-Claude Abrec, on parle de cette entrevue de Harry et Meghan accordée à Oprah Winfrey pour quelques sous, quelques jolis sous.
Oui.
Le prince Harry est sixième dans l'ordre de succession de la couronne. Il y a d'abord le prince Charles, ensuite il y a William, il y en a encore trois autres, et arrive Harry. Est-ce qu'on peut faire une lecture presque de Macbeth, vous savez, cette tragédie de Shakespeare, où ne pouvant pas avoir le pouvoir, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va démolir ceux qu'on ne peut pas conquérir pour essayer d'abattre autant de petits chevaux, si j'ose dire, pour passer du sixième au cinquième, au quatrième, au deuxième et au premier rang dans la succession. Est-ce qu'on peut imaginer?
Je pense pas qu'on puisse l'imaginer pour la simple et bonne raison qu'ils se sont retirés de l'institution, entre guillemets, et ils ont quitté tous leurs, entre guillemets, droits et privilèges, si mon souvenir est bon, d'une part. Et d'autre part, moi, je pense que, comme le disait une des personnes, là, c'est un peu, peut-être, possiblement des enfants un peu gâtés. Et qui ont décidé que, OK, on va trouver une autre. Ça ne marche pas de ce côté-là. De toute façon, j'ai aucune chance d'être roi. Hein, je suis le sixième dans la liste. Il faudrait qu'il y en ait plusieurs qui soient disqualifiés pour je ne sais trop quelle raison, ou encore qui meurent avant que la reine meure, etc. Et pour que lui puisse être nommé roi. Donc, l'impression, moi, que ça me donne, c'est des enfants un peu. Peu gâté, qui probablement trouve que l'institution, c'est lourd de vivre dans cette institution-là, et qui ont décidé de user leur notoriété pour aller faire fortune ailleurs, pour aller faire fortune, c'est ça. Ça me semble simplement être une grosse opération de relations publiques pour, comme disait le prof de McGill, pour accroître leur notoriété, pour mieux vendre leur marque de commerce qui s'appelle Harry et Meghan.
Alors, la reine, ça, c'est vraiment le personnage central de ce jeu d'échecs. C'est pas le roi, c'est la reine. D'abord, il n'y a pas de roi pour l'instant. La reine reste de marbre. Enfin, on a l'impression d'avoir une réédition de l'histoire de Lady Di. Quoique, à l'époque, les gens étaient presque à 100% pour Lady Di. Aujourd'hui, les avis sont beaucoup plus tranchés. On est très pour ou très contre Meghan et Harry. Mais la reine, elle, depuis 62 ans, elle reste droite dans ses bottes, ses escarpins, je ne sais pas, sous son diadème. Et elle a une attitude absolument comme un roc.
Ben moi, je crois que le secret de sa longévité de la reine Élisabeth II et de sa popularité réside autant dans le fait de son mutisme et de son impénétrabilité que dans son élégance. Autrement dit, on ne l'entend jamais faire un commentaire public sur une quelque situation donnée. Hein? Elle reste toujours à l'écart de tout ça, loin de tout ça, parce que son rôle, évidemment, elle a un rôle qui est assez, comment je dirais ça, donc, qui est assez formalisé, hein?
Formel, oui.
Et elle a un rôle où, finalement, bon, elle doit comme présider à certaines cérémonies officielles, elle doit aller rencontrer les peuples des pays membres du Commonwealth, mais toujours dans des cérémonies officielles, formelles. Elle doit aussi, bon, je crois que c'est une fois par semaine ou une fois par mois, je ne me rappelle plus de la fréquence, où elle a une rencontre avec le premier ministre du Royaume-Uni pour échanger. Bon, en fait, le premier ministre vient lui raconter vers quoi il s'en va, c'est tout, mais elle n'a pas, comment je vous dirais, là, elle n'a pas le pouvoir de faire changer les projets vers lesquels il va. Bien sûr qu'elle peut discuter avec lui, mais le premier ministre demeure l'homme qui est l'homme au pouvoir.
Il y a une formule qui résume ce que vous dites, Jean-Claude Herbrecq, et c'est une formule qu'on utilise à Buckingham, au palais de Buckingham. Never complain, never explain. Ne vous plaignez jamais et n'expliquez jamais.
Je crois que ça rejoint exactement.
On remplit une fonction, que j'ai une névrose, que j'ai une fièvre, que j'ai vomi la veille ou pas, que j'ai le ventre gonflé, que sais-je, peu importe, que j'ai une peine d'amour, on s'en fout, tu figures sur les timbres, sur les billets de banque, tu agites la main, tu souris. C'est ce que l'on veut, et à ce titre-là, la reine, elle remplit son rôle à merveille.
Oui, exactement. Et tout ça pour dire finalement que je pense que, comme le dit un professeur de l'University College de Londres, Robert Hazel, qui est un professeur de droit constitutionnel, soit dit en passant, ce monsieur dit c'est pas une crise pour la famille. C'est une crise pour la famille, ce qui se passe là, mais c'est pas une crise de la monarchie en tant qu'institution. Autrement dit, il y a deux membres de la famille qui ont décidé de râler, qui se plaignent de la famille, voilà, comme ça existe dans plusieurs familles. À un moment donné, il y a des chicanes de famille, il y a du chiolage. À la différence que près, c'est que normalement, dans la famille royale, ben, ça reste en privé. On n'évoque jamais ça en public. Ça demeure toujours privé. Et c'est sûr qu'il y a des tensions dans cette famille-là, comme dans n'importe quelle famille. Mais normalement, la règle veut qu'on garde tout ça privé. Et comme vous le disiez en parlant de la reine, on demeure muet, on demeure impénétrable, on essaie de demeurer élégant et on n'évoque jamais ça publiquement.
Évidemment. Il y a une chose quand même, je le disais en introduction, enfin j'y faisais allusion, Jean-Claude Herbrecq, la reine d'Angleterre ne verse pas une larme. Elle est à la limite froide. Depuis la mort de Lady Di, depuis, elle a mis un peu d'eau dans son vin. On est vraiment dans le devoir, beaucoup plus que dans le sentiment. Elle en a mis un petit peu quand même, si vous voulez. Cette monarchie, cette institution est un peu à contre-courant, parce qu'aujourd'hui, il y a non seulement les sentiments qui sont étalés sur la place publique et qui font foi d'une vérité, mais il y a en plus, c'est le ressenti qui prime sur les objectifs. Meghan Markle, devant Oprah Winfrey et avec son mari Harry, passe son temps à dire « Ah, mais je me suis senti, ah, j'ai ressenti que... » Le ressenti semble l'emporter sur l'effet objectif. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? Quand? Pourquoi? Rien de tout cela. On est dans le nébuleux et surtout dans « Ah ben c'est mon sentiment et comme c'est du sentiment, ça ne peut pas être mauvais. » On est en plein romantisme.
Ben c'est exactement la même chose quand vous regardez ce qui se passe actuellement dans les universités, quand un professeur ou une professeure décide d'employer le mot « nègre » parce qu'elle est à l'intérieur d'un cours aussi utile. Là, on se met à râler, on ne peut plus employer le mot. Il faudrait qu'on dise le mot en « n ». Voilà. Et c'est la même chose avec « différents mots de ce genre, pas juste des mots, avec des situations. Par exemple, je voyais la semaine dernière, dans une université, je pense que c'est ici, au Québec, où un professeur parlait, dans le cadre de son cours, sur plan biologique, que les hommes et les femmes. Alors, quelqu'un a décidé de lever la main et dit non, vous ne pouvez pas dire ça. Moi, je me sens attaqué quand vous dites ça.
C'est une micro-agression.
Alors là, on voulait que le professeur cesse d'utiliser ces mots homme, femme. C'est le même genre. Et à partir de ça, on part en campagne, puis là, on crie au scandale, puis que ce professeur est terrible, que ce professeur est incompétent, qu'il faudrait le virer, il faudrait que l'université abolisse non seulement le cours, mais abolisse, transforme le langage, transforme mais c'est un peu le même genre de choses que vous évoquez, je crois.
Oui. Jean-Claude Brec, vous nous parliez donc de cette entrevue accordée à Oprah Winfrey, une entrevue du prince Harry et de Meghan Markle, son épouse, entrevue où on met en cause pas mal de choses liées à la monarchie britannique ou à l'institution en tout cas. Merci beaucoup Jean-Claude, on vous retrouve dans deux semaines.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. À venir sur les ondes de Radio VM, après la COVID, les années folles, point d'interrogation. On vous revient après la pause publicitaire.